Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. 3 millions de Français souffrent d'apnée du sommeil et peu d'entre eux le savent. Armen Verdian, fondateur de la start-up Sleep Doctors, a créé pour eux la première clinique digitale du sommeil. La société Interfimo, filiale de LCL, est le premier organisme financier au service exclusif des professionnels libéraux, dont bien sûr les professionnels de santé, dès leur installation. Olivier Mercier, président du directoire d'Interfimo, et André-Paul Bahuon, vice-président du conseil de surveillance d'Interfimo, vont nous dire combien ils sont utiles au monde de la médecine libérale. Enfin, retour au salon Meditex avec Alain Toledano, oncologue, président de l'Institut Raphaël, Anne-Marie Armenteras, directrice du think tank Health and Tech, et Vingo, directeur général du SIAMT. Check-up santé, c'est parti. Armen Verdian, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes le cofondateur de Sleep Doctor, une start-up récente puisque vous l'avez cofondée en 2021,
absolument.
En septembre 2021.
Septembre 2021, 18 mois.
Oui, alors donc vous travaillez autour des troubles du sommeil, et en particulier pour le moment, hein, on va voir après, autour du syndrome d'apnée du sommeil, le fameux SAS. Est-ce que c'est un syndrome qui est assez connu?
En réalité, c'est l'ensemble des troubles du sommeil qui sont trop méconnus et trop sous-estimés. Et c'est cela qui a provoqué la création de notre start-up. Le sommeil, c'est la pierre angulaire de la santé. Le sommeil a des répercussions sur l'ensemble des problématiques de santé qui nous concernent. Et pourtant, c'est un domaine qui est sous-estimé et même maltraité. Je ne sais pas si vous avez entendu l'Organisation mondiale de la santé qui parle même d'épidémie de manque de sommeil. Mm-hmm. Pour revenir sur...
On peut dire que les nouvelles technologies d'ailleurs, hein, les écrans sont un peu responsables
absolument,
aussi, entre
absolument.
Autres, de
notre mode de vie, nos sociétés occidentales perdent du sommeil chaque année, si je puis dire. Et pour parler de l'apnée du sommeil, c'est aussi évidemment un trouble... Alors c'est probablement le trouble le plus sérieux. Il concerne 4 à 10% de la population en France.
Ouais, entre 3 et 4 millions de personnes, à peu près.
En France, oui, ouais. À peu près. Mm-hmm. Et c'est un trouble qui est en hausse, puisqu'il est aussi en lien avec des maux de notre société, comme l'augmentation du surpoids et de l'obésité.
Ouais. Et c'est un facteur de risque cardiovasculaire, entre
absolument,
autres,
hein. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu s'attaquer à l'apnée du sommeil, c'est parce que c'est parmi les troubles du sommeil probablement le plus sérieux. On estime que le risque de décès par maladie cardiovasculaire est multiplié par 3 si l'apnée du sommeil sévère
est
non traitée. Oui, absolument.
Ouais. Alors, vous avez donc créé.
Si je peux rajouter, et l'autre chiffre à avoir en tête, c'est que 70% des personnes qui sont touchées par ce trouble ne sont pas prises en charge. Donc vous voyez que nous avons du travail devant nous.
Alors justement, c'est la raison pour laquelle vous avez créé donc une plateforme, la première clinique digitale du sommeil, c'est bien ça?
Absolument, c'est la première plateforme digitale qui est exclusivement dédiée aux problèmes de sommeil.
En pleine crise du Covid.
Absolument, ouais. qui nous a aidés. Et à la fois dédiée au sommeil et aussi bâtie autour des médecins du sommeil, des médecins spécialistes du sommeil que nous accompagnons.
Alors comment ça marche justement?
Eh bien, les gens qui ont des troubles du sommeil, qui ont des problèmes pour dormir, peuvent se connecter sur la plateforme et ils seront rapidement mis en relation avec des médecins dont c'est la spécialité. Mm-hmm. Et par la suite, si les médecins estiment qu'il faut aller plus loin et effectuer notamment un examen nocturne du sommeil, eh bien, une personne se déplacera au domicile du patient pour l'effectuer.
On peut d'ailleurs effectuer un petit test sur votre plateforme,
oui.
Pour voir si on est plus à risque d'avoir de... L'apnée du sommeil?
Absolument, on peut effectuer ce rapide test de dépistage et nous sommes assez fiers d'avoir eu depuis 18 mois seulement environ 55 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire et c'est une contribution en quelque sorte à notre c'est le symbole de notre volonté de participer de la sensibilisation de la population aux problèmes de sommeil.
Donc alors les patients s'inscrivent sur la plateforme. Puis vous leur proposez donc non seulement évidemment une consultation par un médecin du sommeil, mais en plus vous leur proposez aussi de pratiquer cet examen. Vous leur envoyez des techniciens pour pratiquer une polysomnographie.
Oui, absolument. En réalité, on s'inscrit sur le système existant en facilitant et en fluidifiant le parcours. Mm-hmm. Donc les patients ont accès en téléconsultation à un médecin du sommeil, donc sans sortir de chez eux. Mm-hmm. Et par la suite, si le médecin leur prescrit un examen du sommeil, nous l'effectuons à domicile.
Il faut une prescription médicale pour cette polygraphie.
Mais justement,
elle est faite par.
On l'effectue au nom du médecin.
D'accord. Donc le médecin avec lesquels vous travaillez ou d'autres médecins.
Absolument.
Ça peut être un pneumologue, un cardiologue.
Absolument.
Ou un otorino. Donc ça, c'est pour l'apnée du sommeil. Mais j'imagine que vous allez vous occuper d'autres pathologies du sommeil.
Absolument. En réalité, les médecins avec lesquels on travaille, qui sont des médecins du sommeil, s'occupent de l'ensemble des pathologies liées au sommeil. L'insomnie, par exemple, mm-hmm. qui est aussi le mal du siècle.
Oui. Et donc là, vous proposez toujours sur votre plateforme digitale, sur votre clinique digitale, donc proposer de gérer un petit peu, de gérer ces problèmes du sommeil. Et de quelle façon ?
On apporte, si vous voulez, une brique technologique en plus pour devenir à la fois le meilleur ami du patient et le meilleur ami du médecin. On accompagne le patient, on le prend par la main pour s'assurer qu'il trouve une solution, in fine, à ses problèmes de sommeil. Et on aide le médecin du sommeil, qui lui va s'occuper du trouble quel qu'il soit, hein, que ce soit l'apnée du sommeil ou l'insomnie. Eh bien, on va l'aider à gagner du temps, on va l'aider à être plus efficace et on va l'aider à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, à savoir la pratique médicale.
Alors, il y a quand même un business model.
Bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous sommes au service du médecin et nous sommes rémunérés par eux.
Ah, vous êtes rémunéré par les médecins et non pas par les patients.
Non.
D'accord. Ben
pas pour l'instant, en tout cas.
Pas pour l'instant. Ben on vous souhaite bonne chance.
Merci infiniment.
J'ai l'impression que, évidemment, vu le nombre de diagnostics d'apnée du sommeil,
C'est un fléau.
Oui, un succès.
Je pense que c'est un fléau auquel il fallait s'attaquer. Et je suis très fier qu'on puisse œuvrer dans cette direction.
Eh ben tant mieux. Bravo. Merci beaucoup.
Merci Fabien.
Merci.
BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.
André-Paul Bayon, bonjour.
Bonjour Fabien.
Olivier Mercier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Merci d'être là et bienvenue dans Check-up Santé. Olivier Mercier, donc, vous êtes passé quand même vous avez fait Dauphine, vous avez fait Sciences Po et vous êtes à présent le président du directoire d'Interfimo. Dites-nous un petit peu la mission d'Interfimo qui existe depuis une cinquantaine d'années.
Parfaitement, Fabien. Interfimo est une émanation des professions libérales qui a été créée par et pour les professions libérales parce qu'à l'époque, les professions libérales rencontraient des difficultés pour accéder au crédit, notamment dans leur première installation. Et un homme, Lionel Aubespre, a eu l'idée de créer un organisme de caution mutuelle en réunissant autour de table les différents présidents de syndicats représentants du monde libéral. Et c'est ainsi que Interfimo est né et continue de se développer 50 ans après.
Quel est votre lien avec le LCL ?
Interfimo est aujourd'hui filiale à 99% de LCL parce que très très rapidement c'est LCL qui s'est rendu compte, je dirais, du poids et de l'intérêt des professions libérales sur l'ensemble des territoires, et c'est tout naturellement que LCL a pris une participation majoritaire, 99%, au sein du capital d'Interfimo.
D'accord. Et vous êtes et Interfimo est présent sur tout le territoire ?
Alors nous sommes présents à travers près de 80 bureaux partout en France et sur les territoires ultramarins, et nous sommes adossés aux 1600 agences de LCL qui sont partout sur le territoire. Donc ça nous permet d'offrir partout en France les services à la fois d'une banque de proximité et d'une entreprise spécialisée comme Interfimo à l'ensemble des professions libérales réglementées.
Alors André-Paul Bayon, vous êtes expert comptable, vous êtes président de la CCEF, qui est la compagnie des conseils et experts financiers, et vous êtes aussi vice-président du conseil de surveillance d'Interfimo. J'ai raccourci votre CV, sinon...
C'est gentil.
Ça prenait la moitié du temps.
Merci.
Financer, c'est bien. Bravo, hein, financement, mais aider à gérer, c'est quand même mieux, non ?
Alors, c'est clair, et je dirais que... Déjà, je voudrais revenir juste sur Interfimo et la particularité, parce que c'est la gestion, en définitive, la gouvernance. Olivier vient de présenter l'importance de LCL, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'action d'Olivier Mercier au directoire est surveillée par un conseil de surveillance qui est doté que de professionnels libéraux. C'est-à-dire qu'on a un joint venture qui a été créé entre les professionnels libéraux et la banque. Et là, déjà, on parle de gestion, de gouvernance, puisqu'on surveille, en quelque part, la qualité, évidemment, d'investissement d'Interfimo auprès des professions libérales.
Puis après, bien. Donc, c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure.
Ah c'est, pas grave. C'est pas grave, je voulais souligner ce trait important, parce que ça fait partie de la gestion. Évidemment, financer, c'est bien, et gérer, c'est encore mieux. Et là, évidemment, tous les supports d'Interfimo, mais aussi des professions comme la mienne, sont là auprès des professionnels libéraux pour optimiser leur gestion, surtout dans des temps de crise, dans des temps de difficultés, dans des temps de structuration des professions, que ce soit les professions médicales, qui est le sujet d'aujourd'hui, ou d'autres professions libérales, où on s'aperçoit que, en définitive, s'installer n'est pas toujours aussi facile que ça. Parfois, il faut reprendre des activités, et donc il faut comprendre comment ces activités ont été gérées, ou savoir comment rassembler des activités. Alors, dans le médical,
surtout
ça peut
que le professionnel de santé, il n'est pas toujours habilité à gérer une entreprise, parce que c'est quand même une entreprise. Hein,
bien sûr, médical, oui. Bien sûr. Bah, oui. De toute façon, dès lors que l'on parle d'une activité économique, on est dans une entreprise. On est soit artisan ou entreprise de soi-même, et c'est quelque chose d'extrêmement important, de valorisant. Mais dès lors qu'on se rassemble, on a évidemment le souci de l'entreprise, sa stratégie, sa gestion de trésorerie, sa comptabilité, évidemment l'ensemble des rapports juridiques qu'il peut y avoir entre les personnes, et voir le rassemblement de plusieurs professions. On peut imaginer des plateaux entre des biologistes, des radiologistes, des médecins généralistes. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes objectifs professionnels, c'est évident, mais pour autant, il faut les aider à concilier cet ensemble pour le meilleur des patients.
Alors, Olivier Mercier, donc, vous financez évidemment et vous êtes très connu pour ça, vous financez une grande partie des dentistes, des médecins, etc. Mais tout le monde ne vous connaît pas, évidemment. Comment est-ce qu'il faut, comment vous sollicite-t-on pour avoir un dossier, pour...
Alors, de différentes oui. façons.
Oui, financées par...
Tout
par
d'abord, vous, oui. nous avons, comme je vous précisais, 80 bureaux partout en France adossés aux 1600 agences de LCL.
Qui communiquent, les agences de LCL communiquent là-dessus, oui.
Communiquent beaucoup là-dessus. Nous avons aussi, nous intervenons dans près de 200 manifestations par an auprès des ordres, auprès des syndicats et auprès des étudiants. Et nous développons énormément de partenariats avec les experts comptables et les avocats conseils d'entreprise. Enfin bref, tous les conseils qui gravitent autour des professions libérales et de l'écosystème, et c'est tout naturellement, je dirais, qui nous adresse des projets ou qui nous flèche leurs clients qui ont, je dirais, des projets qui sont de plus en plus complexes à l'aune de l'évolution du monde des
J'imagine
professions
que
libérales.
Vous avez quelques milliers de dossiers par an.
Oui, on étudie 10 000 projets, nous finançons près de 3,5 milliards d'opérations et nous portons 14 milliards d'euros d'encours sur le monde des professions libérales réglementées, dont un peu plus de 70% sur le monde de la santé, avec des parts de marché significatives sur les pharmaciens, sur les chirurgiens dentistes et radiologie, et enfin imagerie et biologie.
André-Paul Bayon, donc les pratiques d'installation des professionnels de santé sont différentes de ce qu'elles étaient il y a même 10 ans.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors,
les habitudes changent,
et puis, je dirais, les problèmes de sociologie existent, les problèmes de société existent aujourd'hui. On connaît, on parle toujours des déserts médicaux, et ils ne sont pas toujours dans les régions les plus reculées. Ils peuvent être aussi en région francilienne, en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui émerge en définitive le principe des maisons de santé qui se mettent en place et qui permet de réunir en définitive plusieurs disciplines de façon à être en proximité, mais rassemblement bien sûr, des patients. Je crois que les professionnels vont vers cela parce que on s'aperçoit bien que le patient a besoin d'être assuré d'une manière générale, et il faut pouvoir offrir à nouveau un service de proximité à l'ensemble des patients. Donc aujourd'hui, s'installer pour un professionnel libéral médical, bien c'est plutôt compter sur plusieurs spécialités, c'est faire effet de masse de façon à ce que bien on s'entende bien aussi sur les protocoles, par exemple, qui pourraient exister. Donc ça suppose certains investissements, comme par exemple des locaux, ça suppose aussi des mises en commun de moyens, et donc qui donnent des structures différentes à gérer.
Alors, vous aidez les professions libérales, et là, si on a de moins en moins, il y a une pénurie, il y a un manque d'attractivité. Que faire pour essayer d'améliorer cette attractivité ?
Alors tout d'abord, effectivement, il y a un problème d'attractivité, mais il faut aussi dédramatiser le problème de la première installation, parce que souvent, ce qui fait peur à la jeune profession ou aux futures professions libérales, c'est de rentrer dans un monde qu'il ne connaît pas. Et c'est à ce titre qu'Interfimo, émanation des professions libérales, accompagne l'ensemble des professions libérales dans la première installation, à travers des financements, à travers leur développement, etc. Mais aussi a mis au point un pôle évaluation. Ce pôle évaluation est le constat des 10 000 projets que nous étudions chaque année. Nous étudions 10 000 projets, donc ça nous permet de réaliser des études économiques sur, par exemple, les prix de cession des pharmaciens. D'ailleurs, l'édition de 2022 sera présentée le 6 avril prochain au siège de LCI, boulevard des Italiens. Et ensuite, ce pôle évaluation nous permet d'apporter une valeur à l'entreprise libérale. D'accord. Que le jeune entrepreneur va intégrer, ou que l'associé actuellement, je dirais, titulaire, pourrait céder dans les meilleures conditions, en prenant à la fois des critères financiers, extra-financiers, comme l'organisation, la zone populationnelle desservie, la courbe démographique des praticiens, l'accès à des plateaux techniques, etc. Et ça, c'est le fruit de 53 ans de travail au profit des professions libérales, qui nous permettent de mettre, je dirais, à la disposition des entreprises libérales, des entrepreneurs libéraux, ce type d'études d'évaluation.
Comment voyez-vous l'évolution un petit peu de notre système de soins et de votre aide à cette médecine libérale?
Alors
elle va se modifier avec le temps. Oui,
c'est un monde qui bouge beaucoup et qui va encore beaucoup évoluer, pour les raisons démographiques dont André Paul parlait tout à l'heure, les raisons sociologiques, les raisons technologiques, et ce qui va, je dirais, amener une transformation conséquente, donc des besoins de financement extrêmement importants, que ça soit en dette, que ça soit en equity, que ça soit en conseil. Et à ce titre, Interfimo est extrêmement bien placé pour répondre à toutes les préoccupations légitimes des professions libérales, notamment grâce au réseau LCL, à sa banque privée et à ses secteurs comme la ligne entreprise, qui peuvent accompagner les plus grandes entreprises libérales dans leur développement et leur transmission.
Eh bien, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup André-Paul Bayon.
Merci Fabien.
On va à présent se transporter au salon Menitex avec Alain Toledano, Anne-Marie Armand-Terrasse et Vingo. Alain Toledano, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cancérologue, vous êtes au centre Hartmann de cancérologie et vous êtes aussi et surtout le président fondateur de l'Institut Raphaël. Vous êtes aussi le président du conseil scientifique du salon Menitex. Quelle est la philosophie de ce salon ?
Alors, Menitex est un salon innovant où on va rassembler des patients, des usagers, des institutionnels, des start-up, et montrer que l'innovation en santé, c'est pas uniquement une innovation d'actes techniques autour de la maladie à l'hôpital. Mais la santé, c'est un écosystème global qu'on doit penser à travers un prisme beaucoup plus large.
Et la particularité aussi de ce salon, c'est qu'il est ouvert au grand public.
Ah oui, on a voulu l'ouverture dans un même lieu, parce que le lieu crée le lien, et le lien crée les projets. Et aujourd'hui, autour de la santé sociale, avec les nouveaux emplois, de la santé physique, avec le sport santé, de la santé émotionnelle, des soignants, des patients, on a des start-up, des professionnels, nos institutions qui travaillent main dans la main en faisant la promotion de nouvelles idées.
Vous êtes donc président fondateur de l'Institut Raphaël, qui se situe à l'Opéré aux portes de Paris. L'Institut Raphaël, il est consacré principalement donc au cancer, bien sûr, mais surtout autour du cancer.
Oui, maison de l'après-cancer, et on s'occupe aussi des maladies chroniques. En fait, on souhaite passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, quelle que soit la maladie. Et pour ce faire, on va accompagner chaque patient, co-construire avec chacun un parcours d'accompagnement qui est coordonné et qui va être orienté vers la nutrition, vers l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. On offre ces parcours gratuitement aux patients et on les évalue. Et ce qu'on souhaite montrer, Fabien, c'est qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie.
Il faudrait donc décliner ce concept ?
C'est important de montrer qu'il y a une création de valeur pour pouvoir faire bénéficier la collectivité et que tout le monde y ait accès partout en France.
Anne-Marie Armand-Terrasse, bonjour. Alors, vous avez un long passé dans la santé, hein. Vous êtes passé par la direction d'hôpitaux à la PHP,
par l'ARS, par la DGOS, et maintenant vous êtes président donc, du think tank Health Center. Quelle est la philosophie de ce think tank ?
Alors, ce think tank, il est centré sur la santé numérique. Santé numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le développement de ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui, les big data, la e-santé, bien sûr l'intelligence artificielle, peuvent être, ils sont même, des catalyseurs pour toute une série d'applications en médecine. Donc ce think tank, il rassemble des industriels de la santé, il rassemble des opérateurs, des médecins, des groupes d'infirmiers, d'acteurs de la santé, des industriels du numérique en santé, et nous essayons de trouver des thèmes qui leur permettent de progresser. Alors, par exemple, le thème que nous avons choisi cette année, c'est le thème prévention et numérique.
Alors, vous avez animé une table ronde autour de la prévention et de l'engagement du patient.
Oui, alors le thème de la table ronde, c'était est-ce qu'un patient engagé est un patient mieux soigné ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette table ronde avec un cardiologue, le professeur Sabatier, qui a, à Caen, en Normandie, suivi pendant des années des milliers de personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, ça va vous parler, et il les a suivies en télésurveillance à domicile. Et cette équipe a publié il y a quelques mois des résultats exceptionnels parce que sur cette cohorte, ils ont quelque chose comme 30% de moins de réhospitalisation et ils ont une meilleure durée de vie. Et en fait, cette étude vient corroborer toute une série d'études qui sortent vraiment beaucoup, presque toutes les semaines à l'échelle internationale, qui montrent que lorsque des patients engagés notamment avec le numérique, mais on peut les engager sans le numérique, mais le numérique est un catalyseur, hein. Ce sont des applications qui permettent aux patients de se suivre, de se prendre en main et de se suivre. Donc toutes ces publications montrent que engagés dans la gestion de leur parcours, les patients à la fin, avec les mêmes molécules et les mêmes protocoles, ont de meilleurs résultats. Et donc, ça, c'est assez extraordinaire, c'est très humaniste, hein, et en même temps, ça profite des innovations technologiques comme le numérique.
Donc, un think tank, ça fait une synthèse, ça analyse, et ensuite, ça formule des propositions ?
Absolument. Alors, là, nous avons... nous allons faire des propositions au ministre de la Santé sur la prévention. Il aura peut-être déjà sorti son plan prévention. Qu'est-ce qu'on va lui dire en gros ? On va lui dire que d'abord, il est très important de soutenir les programmes qui, de façon épidémiologique, analysent avec les data les données des patients chroniques dans les territoires. Aucun territoire n'est égal à un autre territoire et il faut segmenter les populations pour savoir de quoi elles ont besoin. Ensuite, il faut soutenir les programmes qui viennent permettre aux patients, aux équipes, d'utiliser ce qu'il y a de mieux dans la technologie numérique pour progresser davantage. Et puis, voilà, on fera d'autres propositions sur les data. En tout cas, nos séminaires sont en cours.
Vinengo, bonjour. Alors, vous êtes le directeur général du SIAMT, C-I-A-M-T. Qu'est-ce que le SIAMT exactement ?
Alors, le SIAMT, nous sommes une association de médecine et de prévention en santé au travail. Nous sommes nés en 53 grâce au père fondateur artisan de la Chambre des métiers. Voilà, nous suivons toute la partie prévention des entreprises et la santé des salariés depuis maintenant toutes ces années. Et on est sur l'île de France pour surveiller 430 000 salariés pour le compte de 29 000 entreprises.
Alors, c'est vrai que les nouvelles technologies, hein, elles sont de plus en plus présentes dans le monde de la santé. Est-ce qu'en médecine du travail, elles sont particulièrement intéressantes pour vous ?
Bien sûr, on profite de l'essor de l'écosystème, hein, quand on voit sur le salon Made in Tech. On voit bien que nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les derniers, mais en tout cas, nous cherchons aussi toutes les innovations pour améliorer la prévention et la santé au travail des salariés suivis.
Alors justement, de quelle façon ? Est-ce que vous avez un exemple ou deux à nous donner ? Alors,
nous avons plusieurs exemples. L'exemple typique, c'est en matière de prévention collective. Nous avons des outils qui nous permettent d'identifier les angles, les mauvais angles, en tout cas les angles inconfortables, des articulations, notamment dans la prévention des troubles musculosquelettiques, par exemple. Et deuxième exemple, c'est une application digitale qui nous permettrait d'identifier des situations à risque, des désinsertions professionnelles des salariés suivis, et surtout de pouvoir les coacher sur leur démarche personnelle de réinsertion professionnelle.
Est-ce qu'il y a un mur, heureusement d'ailleurs, j'espère, un mur entre les données des patients dans l'entreprise et le personnel et les dirigeants d'entreprise?
Bien sûr, toutes les données médicales et professionnelles sont régies par toutes les lois et les règlements possibles, notamment le RGPD. Donc il faut absolument qu'on soit d'équerre là-dessus et surtout qu'on avertisse les salariés suivis de l'ensemble de l'utilisation des données qui nous ont été confiées.
Et voilà, l'émission se termine aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.